Vous écoutez France Culture.
Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélian Var, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalquier, prise de son Stéphane Desmond. Aujourd'hui, je reçois Philippe Dautet pour parler du chemin de l'homme selon la Bible. Philippe Dautet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre orthodoxe dans le patriarcat de Roumanie, fondateur et responsable du centre d'études et de prières de Sainte-Croix, en Dordogne, avec votre épouse Eliante.
Tout à fait.
Donc vous êtes un prêtre orthodoxe marié,
oui.
Comme le sont beaucoup de prêtres orthodoxes.
Oui, tout à fait.
Vous proposez depuis 25 ans des sessions axées sur l'anthropologie et sur le chemin spirituel, selon la tradition spirituelle orthodoxe. Engagé dans des rencontres œcuméniques et le dialogue interreligieux depuis 15 ans, vous venez de publier « Le chemin de l'homme selon la Bible », un essai d'anthropologie judéo-chrétienne aux éditions DDB. Alors c'est un livre que je trouve extrêmement stimulant, notamment en cette période de fête de Noël, parce que vous portez sur la Bible un regard mais extrêmement différent de ce qu'on peut voir habituellement, soit à travers des études exégèse et critiques historiques qui analysent la Bible dans son histoire, dans son développement littéraire, mais qui ne disent pas grand-chose du sens, soit à travers des commentaires théologiques, j'ai envie de dire, dont on est un peu saturé, qui nous expliquent toujours un petit peu les mêmes choses. Et là, en lisant votre livre, on s'aperçoit que vous avez un regard spirituel très profond pour essayer de montrer, au fond, comment la Bible parle à chaque être humain pour lui montrer qui il est, le révéler qui il est à la lumière donc de Dieu et comment vivre. Donc voilà un livre que je trouve extrêmement stimulant et je suis très, très heureux de vous inviter pour en parler. Alors dites-nous en quelques mots déjà, quelle est cette perspective qui est la vôtre dans cet essai ?
D'abord, merci de m'avoir invité. Et la perspective, elle est effectivement ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que j'ai voulu, au-delà de la critique historique, de la critique littéraire, redonner toute la dimension spirituelle à la Bible et dire et réaffirmer que la Bible est avant tout la description du chemin de chaque être humain et les différentes étapes de ce chemin sont décrites à travers les grandes figures bibliques. Or, en fait, cette lecture-là était une lecture des premiers siècles qui est tombée en désuétude. Et,
des premiers siècles du christianisme.
Premiers siècles du christianisme, pardon. Et donc, c'était important, je crois, de redonner toute cette lecture et de montrer qu'au-delà de la réalité historique de ces grands personnages, au-delà du récit qui peut être contesté archéologiquement ou autre, il y a un sens spirituel et que c'est ce sens qui nous intéresse parce qu'il est métahistorique.
Donc vous voulez dire, au fond, à la limite, peu importe qu'Abraham existait vraiment ou pas, que Noé existait, que ces événements aient eu lieu, vous dites qu'ils ont un sens symbolique d'une grande portée qui éclaire la vie spirituelle de chacun.
Voilà, je dirais pas peu importe. Parce que effectivement, c'est important aussi qu'il y ait une incarnation, qu'il y ait une réalité historique de ces personnages. Mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui. Car autrement, effectivement, on a là une culture historique d'un récit qui s'est passé il y a des centaines d'années. Mais ce qui nous intéresse au-delà des personnages historiques, et c'est important qu'il y ait une dimension d'incarnation,
Sauf peut-être pour Adam ou Noé, là on est vraiment plus dans le mythe.
Oui, pour Adam et Noé, on est plus limite. On va dire qu'avec Abraham et Moïse, c'est plus clair. Mais en tout cas, au-delà de cela, ce qui nous intéresse, c'est en quoi ça fait résonance avec ma vie aujourd'hui et comment ils viennent marquer les différentes étapes de la vie spirituelle et de la croissance spirituelle de chaque être humain, c'est-à-dire de chacun de nous. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer déjà que Adam, c'est chacun, et je propose très concrètement de remplacer Adam par son propre prénom. C'est-à-dire, voilà, Dieu crée Philippe. Là, c'est quelque chose qui me montre une relation directe entre, effectivement, Dieu, chaque être humain, et comment ce dialogue et cette correspondance va nous conduire à une lecture intérieure des événements de ma vie, de ce que je vis intérieurement, et puis en même temps, comment je vais pouvoir jouer sur le sens de ma propre vie par rapport à ce chemin proposé.
Ce qui veut dire que vous invitez donc le lecteur à se mettre dans la peau de tous ces grands personnages bibliques et de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, au fond, le sacrifice d'Abraham, j'imagine, vous allez en faire une lecture où chacun peut s'approprier cet événement. Alors, je crois que le plus simple, c'est de prendre des exemples. Alors, vous parliez Adam, c'est moi. Alors, qu'est-ce que, selon vous, la Bible dit à chaque lecteur, à chacun d'entre nous qui la lit, lorsqu'il se met dans la peau d'Adam ?
Alors, Adam, pour la Bible, c'est en même temps chaque être humain et en même temps, c'est tous les êtres humains, c'est toute l'humanité. Pour dire qu'il y a un lien ontologique fondamental entre chaque être humain et toute l'humanité, et c'est dire dans un moment de mondialisation que, en fait, on ne peut pas penser l'individualisme en termes bibliques, que chaque être humain est lié à toute l'humanité et ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Donc, première chose, Adam, c'est chaque être humain et toute l'humanité. Deuxième chose, Adam, il est constitué de polarité. Polarité cieux-terre, c'est-à-dire il y a le monde intérieur en chacun de nous et il y a la réalité extérieure. Masculin-féminin, il y a du masculin et du féminin en chaque être humain. Il y a...
Adam, vous ne faites pas distinction, Adam et Ève. Adam, voilà. C'est l'être humain.
Adam, c'est l'être humain, donc c'est chaque homme et chaque femme et Adam... avec sa dimension féminine et masculine au-dedans de lui. Et donc, l'Adam est un terme générique qui inclut le masculin et le féminin pour chaque être humain, donc homme ou femme.
Alors, c'est quoi cette histoire de la côte d'Adam, là, de Ève tirée de la côte d'Adam ?
Voilà, justement, la côte d'Adam, c'est une très mauvaise traduction, parce que tselem en hébreu, ça veut dire côté et non pas côte. Donc, effectivement, tirer la femme de la côte de Monsieur Adam, voilà, c'est une petite histoire qui... je dirais, est stérile d'un point de vue d'une lecture intérieure. Donc le côté, c'est dire qu'il y a tout un côté de nous que nous ne connaissons pas, que nous avons à découvrir et qui contient l'immense richesse de nos potentialités. Donc le féminin, c'est toute la richesse de l'être humain, donc pour l'homme ou la femme d'ailleurs. Et nous avons à visiter ce féminin et à pénétrer ce féminin pour... finalement intégrer toutes les énergies que nous portons en nous et toutes les richesses spirituelles et humaines que chaque être humain porte en lui-même.
Donc vous dites que nous avons une mauvaise exégèse, mauvaise traduction, mauvaise exégèse du texte.
Mais le milieu juif sait très bien que tselem veut dire côté et non pas côte. Et là, il y a un caractère tout à fait abusif. On a brodé sur la côte, mais en fait, je crois qu'il faut en finir avec la côte d'Adam.
Quelles sont les autres dimensions de ce personnage ?
Donc Adam, c'est aussi un être de désir. C'est marqué dans son nom. Ed, ça signifie le désir. Adam, Ed, le désir, c'est un être de désir. Et il faut réhabiliter toute la dimension du désir. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a beaucoup dénigré le désir en disant que le désir, ça nous menait à n'importe quoi. Or, en fait, le désir, c'est un désir de vie, c'est un désir d'être, c'est un désir, c'est une aspiration profonde à un devenir. Et ça, je crois que c'est fondamental de rappeler que si nous ne sommes pas, si nous n'investissons pas notre désir, il n'y a pas d'avenir pour nous. Et en tout cas, il n'y a pas une aspiration à un essentiel et nous ne marcherons pas dans cet essentiel. Ensuite, Adam est un être de relation, donc c'est cela qui est aussi essentiel, c'est-à-dire que Adam, l'être humain, est un être de relation, donc c'est les uns avec les autres que nous pouvons cheminer et que nous pouvons certainement aller vers l'essentiel de nous-mêmes par l'autre et non pas dans un isolement personnel. Donc voilà, Adam, un être de désir, un être relation, un être qui fait partie de toute l'humanité et qui ne peut pas se couper de l'humanité, mais qui est dans un rapport de responsabilité par rapport à toute l'humanité. Voilà, donc ce que je dirais essentiellement d'Adam, et donc qui contient des polarités, et il a pour vocation d'intégrer ces polarités et d'intégrer les deux dimensions de lui-même pour une unité qui transcende les polarités.
Alors après le personnage d'Adam, qui est à l'origine, donc à la toute premier être humain, donc dans sa diversité homme-femme, on comprend, il y a le personnage de Noé, dont on retient tous évidemment cet événement du déluge, Noé sauvé des eaux, mais vous en faites une lecture évidemment beaucoup plus profonde. Alors au-delà de l'anecdote du déluge, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui symbolise Noé?
Donc symboliquement, le déluge nous renvoie à l'adolescence, au déluge des passions et au fait d'être débordé par des énergies qui sont en nous et que nous ne savons pas gérer. Et là, nous avons une lecture de toute l'approche pathologique. C'est quoi la pathologie ? La pathologie, c'est quand un être humain est débordé par des énergies ou des pulsions qu'il ne sait plus gérer, il devient dangereux pour lui-même et pour les autres. Par exemple, boire un verre de vin est une chose, être alcoolique est autre chose. Et un alcoolique ne peut pas s'empêcher d'eux. Il est débordé par sa pulsion ou bien débordé par une addiction autre. Et donc, c'est la dimension pathologique. Et Noé nous dit pédagogiquement quoi faire par rapport à ce débordement, à ce déluge. Et ce qui est proposé, c'est qu'ils construisent une arche. Donc, construire une arche, ça signifie construire un espace où on peut se réfugier pour prendre une distance, voire même de la hauteur, par rapport à toutes ces énergies qui nous débordent, toutes ces pulsions, toutes ces addictions. Et donc, spirituellement, ça signifie que le premier pas spirituel de chaque être humain, c'est de savoir trouver le lieu du cœur, l'arche du cœur, et donc de s'ouvrir à toute la dimension de la méditation, où il s'agit en même temps d'aller vers l'intime de soi-même, et en même temps de prendre une distance par rapport au monde, c'est-à-dire de ne pas être en prise directe avec les événements du monde, mais pas être en prise directe non plus avec ses propres émotions ou son propre réactionnel. Donc là, ça donne une lecture, prophylactique pour chaque être humain, et pour dire que, en fait, il s'agit de trouver un rapport constructif vis-à-vis du monde, et pour cela, il faut savoir prendre une distance par rapport au milieu extérieur, au conditionnement, mais aussi à ses propres conditionnements intérieurs.
Trouver un refuge donc dans le cœur. Mais quel est le sens du coup de tous ces animaux que Dieu demande à Noé de mettre dans l'arche pour, dans une lecture littérale du texte, on se dit évidemment, sauvegarder toutes les espèces qui ont été créées.
Voilà, alors est-ce qu'il a sauvegardé toutes ces espèces dans l'arche ? Je ne sais pas. En tout cas,
Le sens symbolique.
Dieu demande à Noé de faire entrer les animaux deux par deux. Donc ça veut dire un animal et son contraire, un mâle et une femelle. Et ça veut dire, au niveau du sens intérieur et spirituel, qu'il s'agit, quand on a pris du retrait, de faire entrer une émotion et aussi d'envisager le remède. De faire entrer une problématique, par exemple une addiction à l'alcool ou une addiction à autre chose, et puis d'ouvrir sur toute la dimension opposée à cette addiction, c'est-à-dire cette addiction est une souffrance à propos de quoi ? Et peu à peu, il s'agit ici d'intégrer les problématiques intérieures, mais d'intégrer aussi toutes nos potentialités et de transformer ce qui a été dévié intérieurement pour le restituer dans son orientation originelle qui doit participer de toute la construction de l'être humain, parce que il y a une chose extraordinaire en Adam, et la révélation biblique au milieu de toute l'approche des êtres humains qu'il y avait au premier siècle et même par rapport à l'approche actuelle, c'est qu'il est dit dans la Bible et dans le livre de la Genèse que Adam est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a en chaque être humain une dimension qui échappe totalement à l'emprise cosmique, au déterminisme cosmique, et que cette partie-là est inaliénable et elle ne pourra jamais être aliénée par quoi que ce soit dans le monde. Et je trouve que cette révélation est extraordinaire de dire qu'il y a en l'être humain quelque chose qui est métacosmique et qui ne sera jamais aliéné. Eh bien, de la même manière, ici, il s'agit de voir que nous avons en nous des richesses immenses et que ces richesses immenses sont appelées à émerger au niveau de la conscience personnelle pour devenir consciemment ce que nous sommes potentiellement. Et là, j'ai nommé tout ce passage biblique de l'image vers la ressemblance, la ressemblance étant l'actualisation consciente de toutes les richesses potentielles que nous portons en nous, richesses cosmiques certainement, mais aussi finalement de la capacité divine que nous portons en nous.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Philippe Dautet qui nous parle du chemin de l'homme selon la Bible. Philippe Dautet, vous avez choisi ce très beau morceau de musique. De quoi s'agit-il ?
Donc c'est Nunc Dimittis, c'est-à-dire le chant qui dit comment Saint Siméon l'Ancien a reçu dans ses bras Jésus. Et donc, c'est tout le passage de la tradition ancienne à l'avènement de Jésus qui vient accomplir tout le Premier Testament.
Alors, nous poursuivons cette discussion sur les grands personnages de la Bible. Mais avant de continuer, il y a une question quand même qui me trotte dans l'esprit depuis le début. C'est qu'on voit que vous êtes inspiré des pères de l'Église. Donc, vous l'avez dit, dans la manière de regarder, de lire la Bible selon un sens symbolique et spirituel, et pas simplement littéral et historique. Et en même temps, vous écoutant, j'ai l'impression d'entendre aussi une interprétation psychologique. Et là, je me dis, Carl Gustav Jung ne doit pas être très loin. Parce qu'on sent bien à vos expressions, vous parlez de processus d'intégration, des polarités, etc. Là, on retrouve un discours jungien. Est-ce que vous avez été formé aussi à la psychologie jungienne ?
Je n'ai pas été strictement formé, mais je suis beaucoup inspiré, effectivement, de toute l'approche jungienne. Ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est l'être humain. À partir de là, tous les regards sur l'être humain m'intéressent. Donc, effectivement, le regard patristique des pères de l'Église me passionne. Les pères du désert d'Égypte du IVe siècle me passionnent, le regard anthropologique de Nussözönel me passionne, et Jung fait partie de ceux qui ont posé un regard très intéressant et clinique sur l'être humain. Et donc, évidemment, j'ai recoupé tous ces éléments, qu'ils ne soient pas contradictoires, et le processus d'intégration effectivement est exprimé par Jung, mais il est exprimé aussi par les pères de l'Église. Et je trouve intéressant quand il y a des convergences de regards. Et là, je me dis, il y a quelque chose d'intéressant quand je retrouve la même chose chez Jung, chez les pères de l'Église, chez voire des philosophes socratiques. Ou, voilà. Et donc, ça m'intéresse pour voir quels sont les axes les plus prépondérants d'approche de l'être humain. Et c'est la synthèse de tout qui a constitué ce que j'ai voulu faire à travers ce livre.
Alors si nous poursuivons un petit peu les grands personnages de la Bible, on a parlé d'Adam, on a parlé de Noé, ensuite c'est Abraham, le grand patriarche.
Voilà, c'est Abraham qui fait suite à Noé, donc si on peut penser Adam dans l'enfance, parce que saint Irénée de Lyon dit que Adam était un enfant, n'était pas un être parfait, mais un être en devenir. On va dire que Noé, c'est l'adolescence, on va dire que Abraham, c'est le passage à l'état adulte. Et ce que je pourrais retenir du passage d'Abraham ou du personnage d'Abraham, c'est que Dieu demande à Abraham, « Lech lecha, va vers toi, quitte ton pays, ta parenté, pour le pays que je te montrerai et tu seras en bénédiction. » Donc le « va vers toi, quitte ». Toute la perspective ici que nous avons déjà approchée avec Noé, c'est-à-dire de nommer tous les événements intérieurs ou tous les mouvements de la nature en nous, nommer toute la dimension cosmique, car Dieu demandait à l'homme de nommer les chayot. On traduit dans Genèse chapitre 2, nommer les animaux, mais ce n'est pas uniquement les animaux, c'est nommer les énergies de vie, ce n'est pas appeler un chat, c'est reconnaître par l'intérieur toutes ces énergies qui nous composent. Et donc, c'est pour devenir le sujet de sa propre histoire, devenir l'être conscient de sa propre réalité. Et donc, c'est cela que nous voyons advenir avec Abraham dans le « va vers toi ». Ça signifie quoi? Ça signifie que l'ultime, c'est de devenir le sujet de sa propre histoire, d'advenir à sa propre parole, d'advenir à sa propre vie, d'advenir à sa propre réalité fondamentale, et je dirais ici, d'advenir à son propre « logos ». C'est-à-dire à une raison d'être qui est pour chacun unique, 6 milliards d'êtres humains, 6 milliards de visages, 6 milliards d'êtres différents qui participent d'une même humanité, mais qui sont pour chacun singuliers. Et ça, c'est extraordinaire, ça marie l'unité et la diversité. Et donc, l'unité du genre humain et la diversité des visages. Et donc, Abraham est invité par Dieu à aller vers lui-même, c'est-à-dire vers lui en tant qu'être singulier. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que nous participons tous de la même nature humaine. Nous sommes tous des êtres humains. Mais chacun a une manière unique de mettre en mouvement l'humanité. C'est-à-dire, je mets l'humanité en mouvement à ma manière, à moi personnelle. Et chacun a un mode de relation qui est spécifique et un mode d'être spécifique. Eh bien, ce mode d'être, ce mode de relation, nous disons que c'est la continuité ou l'expression du logos de chaque être, c'est-à-dire ce qui fait son identité personnelle. Et donc, avec Abraham, il y a l'ouverture sur cette quête d'identité profonde. Qui suis-je? Et donc, le « je suis ». Et ce « je suis », il s'agit de ne pas le réduire à un qualificatif ou bien une catégorie. Et c'est ce que nous faisons. Là, on parle beaucoup de tout le problème de l'identité française. Et, voilà. Et donc, être français ne dit pas tout ce que je suis. Effectivement, je suis français de culture occidentale, je suis prêtre, etc. Mais toutes ces notions ne réduisent pas ce que je suis. Et le « je suis » est toujours transcendant à tous les rôles, toutes les fonctions, toutes les catégories dans lesquelles nous sommes incarnés, finalement.
Alors, ce que vous dites là rejoint une fois de plus ce que nous disions tout à l'heure sur Jung, avec le processus d'individuation, qui était l'idée centrale finalement de l'existence pour Jung, d'arriver à ce visage propre, singulier, cette personnalité profonde qui est au-delà de tous mes conditionnements, au-delà de tout ce que j'ai reçu par ma famille, mon éducation, etc. Et ça rejoint ce que Dieu dit à Abraham, pour aller vers toi, quitte ta parenté, la maison de ton père.
Voilà, exactement. Donc, il s'agit de quitter, c'est-à-dire de quitter la relation fusionnelle et de quitter les conditionnements, car si on ne quitte pas toute l'influence familiale, l'influence du milieu, etc., on ne pourra pas se trouver soi-même, on sera le fruit des conditionnements et le fruit des projections familiales, entre autres. Et donc, effectivement, là, il y a une convergence avec tout le processus d'individuation jungien qui, pour moi, est une belle introduction à ce cheminement d'identité spirituelle qui ouvre sur, encore sur une autre dimension.
Et on est, ça éclaire aussi la parole de Jésus qui choque beaucoup de gens, où il dit qu'il ne quitte pas son père et sa mère n'est pas digne de moi.
Voilà, qu'il ne quitte pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. Donc il dit, tu quitteras ton père et ta mère, et en même temps il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais on peut vraiment les respecter, les honorer, que si on advient à soi-même différent de ses parents, et qu'on peut avoir un dialogue de personne à personne, et non plus de fils ou de fille avec père ou mère.
Alors il y a un événement très important que beaucoup qui connaissent un peu la Bible ont en tête dans l'histoire d'Abraham, c'est le fameux sacrifice de son fils Isaac, où Dieu va lui demander d'aller sacrifier son fils, le seul fils qu'il a eu avec Sarah, même s'il a eu Ismaël avec sa servante. Et donc, évidemment, c'est le fils de son cœur. Et Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Alors ça, c'est un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment Freud, mais beaucoup de penseurs se sont intéressés à cet épisode. Quelle lecture vous en donnez ?
Je pense que ce qui se passe avec Isaac est dans le prolongement de ce que nous venons de dire. C'est pour aller jusque à l'ultime de cette quête d'identité. À savoir que Abraham a reçu la promesse d'une fécondité non seulement physique, mais spirituelle. Il sera en bénédiction pour toutes les nations. Et donc, il a un fils unique, Isaac, et il y a toute une projection sur ce fils unique Isaac qui va permettre justement cette bénédiction ou cette transmission de bénédiction. Et paradoxalement, Dieu demande à Abraham, parce qu'il n'est pas encore Abraham, mais il est Abraham, de sacrifier ce fils, cet unique, celui qu'il aime.
Un tout petit mot sur ce changement de nom, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ce changement de nom, donc au début, donc c'est en Genèse 12, il est question d'Abraham et de Sarai. Entendre Sarai avec un yod qui vaut 10, qui est sa femme. Et Abraham va épouser Sarai, et Sarai va céder son i, yod 10, pour donner 5 à Abraham, qui va devenir Abraham, et on rajoute un he à Abraham qui vaut 5, et elle va devenir Sarah. Et à la place du yod 10, elle va avoir un he 5. Donc, en fait, il y a là toute une communion, c'est-à-dire toute la richesse qu'elle portait en elle va être pénétrée au sens strict par Abraham. Et c'est dans cette interrelation des deux qu'il y aura la fécondité. Voilà, donc, ça, c'est cette lecture. Alors maintenant, donc, Dieu demande à Abraham de sacrifier le fils. Je me suis demandé, avec d'autres, est-ce que Dieu a vraiment demandé cela ? Parce que dans le texte hébreu, il est dit « Tu prendras ton fils, ton unique, et tu le monteras en montée sur le mont Moria. » Il n'est pas dit qu'il fallait le tuer. Il dit « Tu le monteras en montée. » Et en fait, dans la culture de l'époque, le sacrifice du fils était usuel. Et donc, lui, il entend qu'il faut sacrifier, tuer. Mais Dieu n'a jamais dit ça. En tout cas, ce n'est pas marqué dans le texte. En tout cas, Abraham l'interprète comme tel, il prend son fils, son unique, il a une parole prophétique puisqu'il dit au serviteur « Nous reviendrons, moi et mon fils ». Et donc, il monte sur le mont Moria, et là, il s'apprête à sacrifier le fils. Et au moment où le couteau va tomber, va s'appliquer sur Isaac, l'ange vient, et le couteau ne va pas tuer Isaac, mais il va couper le lien entre Abraham et Isaac. Ce qui fait que Abraham va devenir libre d'Isaac, Isaac libre d'Abraham, qu'Abraham pourra aller à l'ultime de lui-même et que Isaac pourra aller pour lui-même. Puisque c'est comme ça que traduit Shoraki, va pour toi. Et donc, je pense que c'est l'acmé de ce que Dieu a proposé à Abraham d'aller vers lui-même. Et donc, pour aller vers nous-mêmes, puisque nous parlons de nous, eh bien, il s'agit non seulement de se mettre à l'écart du monde, de se retrouver soi-même, et c'est tout l'acte de la prière et de la méditation, mais il s'agit aussi de quitter, c'est-à-dire de quitter toutes les relations fusionnelles, de quitter, de se mettre à l'écart des conditionnements, de toutes les influences, pour se trouver soi-même, mais il s'agit aussi d'accepter de mourir à ce qui nous est le plus cher. Et donc aussi à nos projections, à nos attentes,
à
nos projets, etc. Et en fait, d'être là par nous-mêmes, et donc de ne pas être là pour quelque chose, mais de reconnaître que toute la richesse est là, et que, en fait, toutes nos projections ne sont que, je dirais, des projets de l'ego, mais qu'il s'agit ici de sacrifier l'ego, et on pourra peut-être mettre un lien entre Isaac et l'ego.
Non, on rejoint aussi la spiritualité orientale
qui
ne parle que de ça. Donc on voit qu'il y a vraiment des thèmes universels Absolument. Qui parcourent toutes les grandes traditions spirituelles. Alors, juste terminer avec un quatrième personnage, Moïse, parce qu'on a envie maintenant de se dire, bon, bah, puisque Abraham, on a grandi de Adam l'enfance, Noé l'adolescence, Abraham l'âge adulte, qu'est-ce que peut représenter Moïse comme quatrième grande figure biblique ?
Moïse représente tout le rapport au collectif. Car Moïse va entraîner tout le peuple hébreu de la terre d'exil, de la terre d'esclavage. Et quand on dit exil, on dit esclavage. Donc exil, ça veut dire exil de soi-même. Quand on est en exil de soi-même, à l'extérieur de soi-même, on est en esclavage aux réalités au monde, aliéné aux dimensions du monde. Et pour échapper à cette aliénation, il s'agit de se trouver soi-même. Nous retrouvons Abraham. Comme par hasard, Abraham est descendu en Égypte aussi. Et Moshe sera sauvé des eaux. C'est son nom. Moshe, ça veut dire sauver des eaux, comme Noé a été sauvé des eaux. Donc nous voyons bien qu'il y a bien une suite logique dans ce récit. Et donc Moïse, il est celui qui va être suscité du sein du peuple hébreu, qui va quitter l'Égypte, la terre d'exil, qui va aller au mont Horeb, qui va vivre l'expérience du buisson ardent, qui est l'expérience magnifique de la révélation de ce feu au sein du cosmos, parce que le buisson était en feu et ne se consumait pas. C'est toute la théophanie cosmique, c'est-à-dire le fait que le cosmos est embrasé par le feu des énergies divines. Donc ça, c'est tout un chapitre qu'il faudrait pouvoir développer, mais qui est dans le livre. Et donc, Moïse vit cette expérience du buisson ardent, une expérience lumière, une expérience de transfiguration, et fort de cette expérience, il va descendre pour aller chercher le peuple et l'emmener vers la terre promise. Et c'est notre récit aussi, dans le sens où chaque être humain a une expérience lumière. Dans nos sessions à Sainte-Croix, nous invitons chacun à reconnaître une expérience du lumineux ou du lumineux qu'il a vécu, car c'est parce que nous avons déjà vu la lumière que nous la cherchons. Et voilà ce que dit cette expérience, et nous la retrouvons évidemment dans les évangiles, où Jésus invite Pierre, Jacques et Jean au mont Tabor, expérience lumière, transfiguration, pour après inviter Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani. Mais s'ils n'avaient pas vécu le Tabor, ils n'auraient pas pu supporter Gethsémani. Pour nous, c'est pareil, nous ne pouvons pas assumer une descente dans les ténèbres s'ils n'ont pas eu déjà une expérience lumière. Donc c'est ça que signifie. Et ensuite, on descend, la descente d'Abraham, qui est comme la conscience du peuple Israël, il va descendre en Égypte et emmener tout le peuple.
Moïse.
Et la peuple, Moïse, pardon. Moïse, et le peuple représente la multiplicité de l'âme. Donc il s'agit que nous entraînions toute la multiplicité de l'âme dans un point convergent vers la terre promise.
Et la traversée de la mer Rouge.
Et la traversée de la mer Rouge, c'est le baptême, mais c'est l'accès à la nouvelle naissance, c'est-à-dire il s'agit de naître de nouveau. Et là, ce que je peux dire rapidement, c'est le fait qu'ils sont en esclavage en Égypte, ils vont aller vers la terre de liberté, mais il y a des bénéfices secondaires en Égypte. Ils ont une maison, ils ont de quoi manger tous les jours. Et là, ils vont tout quitter, ils n'ont plus rien. Et donc, ils sont complètement livrés dans la confiance ou l'absence de confiance à Dieu. Et il n'y a plus de sécurisation matérielle. Et donc, c'est ça aussi le chemin. À un moment donné, on est dépouillé et on ne peut plus se sécuriser à l'extérieur. On ne peut s'appuyer que sur cette confiance intrinsèque au-dedans de nous.
Alors, vous dites beaucoup de choses très intéressantes encore sur Moïse, sur David, sur Jésus, évidemment. On ne va pas en parler. Je renvoie l'auditeur, qui est intéressé par ces thèmes-là à votre livre, Le chemin de l'homme selon la Bible, de Philippe Dautet aux éditions DDB. Une toute dernière question avant que nous passions à la lecture des textes. Au fond, vous entendez un peu revisiter toute une vision de l'homme et du monde. Qu'est-ce qui vous apparaît aujourd'hui par rapport aux défis de notre monde d'aujourd'hui, aux enjeux que nous vivons, particulièrement important dans ce que vous redéfinissez ?
Ce que je trouve très important, c'est que nous sommes partis dans une certaine logique de domination du monde extérieur. Or, en fait, tous les enseignements spirituels, et en particulier la Bible, nous disent tout à fait autre chose, que nous ne sommes pas là pour nous accomplir extérieurement d'abord, ce qui n'empêche pas d'avoir un certain développement personnel extérieur, mais que nous sommes là pour un chemin intérieur et qu'il s'agit de reprendre une vision de l'être humain, de sa vocation profonde, et donc de resituer notre rapport au cosmos. Et ce que je voudrais dire, c'est que avant que l'écologie soit une écologie d'environnement, c'est tout d'abord une écologie spirituelle. Donc il s'agit de changer notre regard sur le monde, car sinon, ce que nous voyons avec la Grenelle de l'environnement et tout ce qu'on nous propose en ce moment à Copenhague, etc., c'est de remanier, d'ajuster ou essayer d'améliorer quelque chose. Mais en fait, le défi est beaucoup plus immense que cela, et ce n'est pas en faisant quelques améliorations techniques que nous allons résoudre les défis actuels, mais en reposant la question de l'homme.
Lélie Anvar, bonsoir.
Bonsoir.
Nous poursuivons notre conversation en compagnie de Philippe Dautet sur le chemin de l'homme selon la Bible avec les textes que vous avez choisis, Lélie.
Oui, les textes, évidemment, le choix était difficile parce que, effectivement, si on a cette approche que vous avez, à savoir de lire la Bible d'une manière que j'appellerais peut-être plus herméneutique d'ailleurs, c'est vraiment un travail herméneutique, ça veut dire de travail des symboles. On pourrait prendre chaque page et la lire ainsi. J'ai choisi le passage sur Caïn et Abel. J'aurais pu aussi choisir le passage sur la chute. Mais je dirais les deux histoires m'intéressaient énormément parce que je crois qu'ils mettent en place, alors au-delà des personnages dont vous avez parlé, ils mettent en place quelque chose du fonctionnement intérieur de l'âme. C'est-à-dire que Caïn et Abel, évidemment qu'on peut la lire comme l'histoire de la naissance du mal, de la naissance de la jalousie, qui a été mise au cœur de l'homme dès le départ. On peut voir les gens qui sont bons et les gens qui sont mauvais, mais moi je dirais plutôt que c'est dans cette histoire la part mauvaise et la part bonne de chacun. C'est-à-dire que chacun a en lui un Caïn et un Abel qui sont en lutte permanente. Et qu'il faudrait prendre garde, en tout cas c'est comme ça que je lis l'histoire, je ne sais pas si vous en serez d'accord, qu'il faut prendre garde à ce que le Caïn de notre âme ne tue pas la belle qui est en nous. Donc, et ce danger nous menace au fond, chaque être humain. Vous le disiez, au niveau global, mondial, c'est un danger qui menace l'humanité en tant que personne, je dirais, en tant qu'être constitué, mais aussi chacun au sein de sa propre âme est menacé par lui-même et menacé de meurtre, ce qui n'est évidemment pas à prendre à la légère. Donc voilà, alors c'est évidemment, l'histoire est très connue, mais je vais ici la relire et en rappelant justement que dans chaque phrase, on peut retrouver cela, c'est-à-dire cet écho intérieur. Vous avez parlé d'intériorisation et je crois que c'est très important, surtout dans les histoires problématiques de la Bible, d'avoir une approche d'intériorisation de ces récits. Voici donc le récit de Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme. elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, et qu'Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or, Yahvé agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn, qui en fut très irrité, en eut le visage abattu. Yahvé dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourrais-tu la dominer ?» Cependant, Caïn dit à Abel, son frère, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Yahvé reprit, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors, peut-être, Philippe Dautet, pourrez-vous nous dire juste un mot sur cette façon de voir l'histoire de Caïn et Abel ?
Donc, l'histoire telle qu'elle est proposée, c'est deux frères, et chacun présente une offrande. L'offrande d'Abel est regardée, l'offrande de Caïn n'est pas regardée. Et là, il y a une colère qui monte en Caïn et qui ne comprend pas. Qui s'insurge. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de magnifique, c'est que Dieu intervient et donne une pédagogie. Et il dit à Caïn, si tu abaisses ton visage, si tu te renfrognes, on pourrait dire, si tu te laisses emporter par ton réactionnel, alors tu cours un danger, mais tu peux encore te dominer et ne pas te laisser emporter par tes pulsions. Mais Caïn, il ne relève pas son visage, il n'entre pas dans l'intelligence de l'événement et finalement il réagit et tue son frère. Or en fait Abel, il est innocent par rapport au fait que Dieu n'a pas regardé l'offrande de Caïn. Et donc il est innocent. Et l'innocent, Abel, qui signifie en hébreu le rien, alors que Caïn, c'est celui qui se prend pour Dieu, c'est celui qui croit posséder Dieu dans le nom Caïn, que je ne vais pas expliciter. Et donc, il tue son frère, qui est le rien, dans le fait d'une jalousie, on pourra dire, peut-être, mais en même temps, dans une colère, finalement, contre Dieu, dans un sentiment d'injustice profond. Et au lieu de tuer Dieu, il tue Abel. Eh bien, ça, c'est un principe. Parce que c'est principiel, en fait. Ce n'est pas une petite histoire qui s'est vécue il y a des milliers d'années. C'est ce que nous faisons tout le temps.
Tous les jours,
c'est-à-dire que nous avons finalement une colère contre Dieu. On demande à Dieu, mais pourquoi tu nous as mis dans cette galère? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Je
souffre.
Contre Dieu, contre,
voilà,
moi,
contre la vie en général. Et donc, il y a une colère, etc. Et en fait, cette récrimination, on la fait porter aux plus faibles. Et on le voit bien au niveau de notre vie quotidienne, mais on le voit bien aussi au niveau du monde entier, où en fait les plus faibles, les plus démunis portent la souffrance du monde. Et donc là, il y a quelque chose qui dit que le plus faible porte la colère du plus fort. Et en fait, il y a aussi en même temps cet Abel qui est le plus fragile en nous et que nous refoulons. Et donc Caïn, qu'on peut assimiler à l'ego, qui vient étouffer et tuer cet Abel en nous. Et les pères de l'Église vont aller plus loin. Ils vont dire que le Christ s'identifie à l'Abel, à celui qui est rejeté. Et donc, il va s'offrir ensuite comme un Abel pour que finalement, répondre à la colère de Caïn, c'est-à-dire la colère de chacun de nous, s'offrir lui-même afin de libérer l'homme de cette colère et le restituer dans son chemin spirituel.
Et accepter en quelque sorte de mourir pour précisément restituer.
Pour restituer. Donc il est nouvel Abel qui restitue l'Abel, mais on pourra entendre ici qui restitue l'être intérieur, qui nous permet de réadvenir à notre être intérieur et de faire ressurgir toute la dimension de l'enfant intérieur ici, qui est blessé, refoulé et qui est tué même en nous.
Et de renoncer à la violence.
Et voilà, et de renoncer à la violence. Colère. Donc là, on pourra convoquer René Girard qui nous parle de cette rivalité mimétique. Et donc, je crois qu'il faut sortir de cette comparaison et de l'esprit mimétique qui est absolument terrible dans ce monde.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Philippe Dautet qui nous parle du chemin de l'homme selon la Bible. Nous entrons dans le troisième moment de cette émission. Alors nous avons des questions. Alors je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur le site de l'émission, lesracinesduciel.com. N'hésitez pas à poser des questions. Quand nous n'abordons pas de questions dans cette émission, c'est que vous n'en avez pas posé. Donc voilà, donc je réponds simplement aux demandes. Alors là, nous avons une question de Marie qui nous demande « Depuis quand la notion de réincarnation ou transmigration des âmes a-t-elle disparu de la religion chrétienne ?» Pour quelles raisons ? Et la retrouve-t-on dans la religion musulmane ? Alors, je crois que cette notion n'a jamais existé, en fait, dans la religion chrétienne. C'est un peu une légende. Beaucoup d'auteurs contemporains pensent effectivement que cette notion qui est orientale, qui est extrêmement développée dans tout le monde asiatique, à la fois dans l'hindouisme, le bouddhisme, a effectivement influencé le christianisme, et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas dans les textes fondateurs du christianisme de paroles qui pourraient, dans l'enseignement du Christ et dans la cohérence même des textes, qui pourraient donner à penser que c'est un enseignement transmis par Jésus ou les apôtres. Il y a quelques passages qu'on pourrait interpréter comme ça en tirant beaucoup les choses par les cheveux. Par exemple, lorsqu'on demande à Jésus qui est Jean-Baptiste, et il dit il a l'esprit d'Élie. C'est-à-dire c'est une sorte de continuation du prophète Élie. Mais il faut plus le lire comme celui qui possède l'esprit prophétique d'Élie, comme s'il y a une lignée spirituelle avec des prophètes qui ont, je dirais, des ressemblances, plutôt que de le lire comme la réincarnation au sens propre, si vous voulez, de l'âme d'Élie, puisque cette notion de réincarnation, de transmigration d'une âme spirituelle d'un corps à l'autre est totalement contradictoire avec la croyance juive dans laquelle il y a une unité profonde de l'être et que le corps et l'âme sont unis dans l'être. Je ne sais pas, Philippe Dautet, vous êtes d'accord avec
ça? D'accord avec ce que vous venez de dire, oui, tout à fait. Et donc, il s'agit de marcher dans l'esprit d'Élie. Et donc, on retrouve les familles spirituelles, comme vous venez de dire, tout à fait. Et on ne peut pas avoir d'identification d'âme entre les deux.
Alors, ce à quoi croit le judaïsme tardif et le christianisme, c'est la résurrection des morts. C'est-à-dire que l'être va renaître dans un au-delà de ce monde, sans qu'on puisse le définir précisément, même si après l'Église essaiera de définir des catégories, l'enfer, le paradis, le purgatoire. C'est l'idée de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'au fond, l'homme est appelé à renaître, c'est la résurrection de l'être avec son esprit et un corps nouveau dont nous ne savons pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est l'être entier qui doit renaître, même si dans la culture occidentale, il y a eu une influence de la transmigration, mais c'est plutôt venu par la Grèce, puisque la Grèce a été influencée par l'Inde et qu'on retrouve chez Pythagore, chez Socrate, dans certains dialogues de Platon, l'idée de la transmigration des âmes. Mais cette idée-là n'a pas franchi effectivement la religion chrétienne, qui a ensuite, beaucoup plus tardivement, lorsqu'elle a été confrontée à cette idée, l'a toujours rejetée comme étant hérétique. Alors je pose la question à Lélie Anvar, on me demande si on la retrouve dans la religion musulmane. Alors je pense certainement pas dans le Coran, mais est-ce que ça existe dans des traditions, je dirais, mystiques ou spirituelles ultérieures?
Oui, tout à fait. Enfin, même, je dirais que ceux qui croient dans la transmigration des âmes font comme ceux des chrétiens qui y croient, c'est-à-dire qui tentent de retrouver dans le Coran des éléments qui viennent étayer cette thèse de la réincarnation. Mais c'est vrai que le Coran, comme les évangiles, n'en parle pas directement. Il y a des choses qu'on pourrait effectivement interpréter de cette façon, mais ce n'est pas tout à fait clair. Mais c'est vrai que, évidemment, le monde musulman a été un peu plus influencé par le monde oriental, et dès le début, les penseurs, les philosophes, surtout les mystiques, ont donné par allusion des références à cette théorie de la réincarnation en disant que ce n'est pas vraiment une réincarnation, mais un passage de l'âme. Alors, il y a différentes théories, évidemment. Mais tout de même, on peut dire que parmi les poètes mystiques, il y a des allusions très claires à cela. Et surtout, chez Molla Sadra Shirazi, qui est un philosophe iranien, il y a une vraie pensée, en fait, de la transmigration des âmes. Pourtant, c'est quelqu'un de très orthodoxe, je dirais. Mais ça a toujours été vu comme une forme d'hérésie. Ça a toujours existé, mais ça a toujours été caché et vu comme une forme d'hérésie.
Juste pour terminer avec cette question, on pourrait dire la même chose dans la pensée juive. Si effectivement le judaïsme biblique, talmudique, ne parle pas de réincarnation, dans le judaïsme mystique à travers la Kabbale, cette idée a émergé et a été utilisée. Donc on voit effectivement, il y a des courants spirituels dans le monothéisme, tout à fait minoritaires, mais qui ont développé cette idée qui n'est pas, encore une fois, orthodoxe dans les textes. Terminons cette émission des Racines du Ciel par l'agenda culturel. Lélie, qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors, comme nous parlions de Bible, j'ai choisi un très beau livre paru au CERF, qui est la Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art. En réalité, c'est le texte de la Bible de Jérusalem, accompagné de 400 images qui sont les témoins majeurs de l'histoire biblique, commentées, en fait, par les meilleurs spécialistes de l'iconographie religieuse. Donc il y a le texte, les illustrations et des commentaires des illustrations. Et on voit, je dirais, des enluminures du Moyen-Âge jusqu'à la scène représentée par Dali, en passant par Michel-Ange, Nicolas Poussin et tous les autres, évidemment la tradition de l'icône. Nous voyons à travers tout cela comment cette Bible a été portée par la tradition picturale et comment finalement, pendant très longtemps, les gens n'ont eu accès à toutes ces histoires dont nous avons parlé que par l'image, puisqu'évidemment, ils n'avaient pas accès au texte, pour diverses raisons. Et on voit que ces images sont aussi une méditation, un profond commentaire de la manière dont ces histoires ont été reçues, de la manière dont, finalement, on a voulu éclairer littéralement par la lumière iconographique, comment on a voulu éclairer ce texte et finalement transcender le sens littéral, le transfigurer dans une vision plus, je dirais, intériorisée. Et je crois qu'en ce sens-là, c'est un livre très intéressant, au-delà du fait que c'est un très beau livre et qu'on le feuillette avec grand plaisir. On retrouve des images que l'on connaît, d'autres que l'on connaît moins. En tout cas, c'est vraiment un livre qui fait partie des très beaux livres, en même temps nourricier, je dirais.
Philippe Dautet, je crois que vous vouliez nous parler d'un livre de Martin Buber.
Oui, j'ai appelé le livre « Le chemin de l'homme selon la Bible », mais il faut savoir qu'il y a un livre qui s'appelle « Le chemin de l'homme » de Martin Buber. Et ce n'est pas par hasard, parce que j'aime beaucoup Martin Buber, qui est un juif rassidique de ce début du XXe siècle, et qui a tout à fait le sens profond de l'homme en devenir selon la Bible, mais qui en même temps le sens de la personne. Par exemple, je dirais juste une petite anecdote pour dire Martin Buber, il fait parler un grand maître qui s'appelait Zusia et qui est sur son lit de mort. Et Zusia, il est là un peu agacé parce que ses disciples sont tellement dans le respect et même l'admiration du maître Zusia qu'ils disent « Ah, mais Zusia est un grand maître et même il était aussi grand que Moïse, etc. » Et Zusia s'est agacé et s'est levé et a dit à ses disciples « Mais là-haut, on me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moïse, mais pourquoi je n'ai pas été Zusia. » Voilà, ça dit bien l'esprit de Martin Buber.
Alors, Le chemin de l'homme de Martin Buber aux éditions Alphée, aux éditions du Rocher. Je rappelle votre propre ouvrage, Le chemin de l'homme selon la Bible, aux éditions DDB. Je termine cet agenda juste pour rappeler également que notre partenaire Le Monde des Religions publie un dossier sur les anges. Voilà un beau thème en cette période de Noël. Les anges, c'est aussi ces messagers de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur les anges. Vous en parlez aussi. Voilà. Et je rappelle également, Philippe Dautet, que vous avez un centre de retraite spirituelle en Dordogne qui s'appelle, on peut le retrouver sur Internet, Centre Sainte-Croix. toutattaché.net. On remettra ces informations sur notre site internet. Marie Dalquier me fait signe que oui. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations, ces ouvrages sur notre site internet. Philippe Dautet, bonsoir.
Bonsoir et merci.
Merci à vous. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Alain Durel qui nous parlera du désir chez les mystiques chrétiens. Demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, culture des autres, consacrée aux voleurs de sexe avec Julien Bonhomme. Bonsoir à tous, à mardi prochain.